France Inter.
Voilà. Celui-là est là.
Lisa de moitié, Mélodie, Fontaine et Mabojan, Oldela, Florent, Guy Bassuro, Daniel Morin, et notre invité Justine Lévy.
Bravo.
France Inter, la bande originale. Leïla Kaddour et Nagui.
Bienvenue Justine, comment allez-vous d'abord ?
Très bien, merci.
C'est vrai ? On espère. On va parler de votre nouveau roman, Une drôle de peine, publié chez Stock. Un roman où vous remettez, si vous me passez l'expression, la plume dans votre histoire avec votre maman. S'il y avait une chose, une seule, pas un livre, pas une analyse, mais une seule chose à retenir de votre maman que vous avez en vous. Qu'est-ce qui est en vous de votre maman ?
Ses gestes. Quelques-uns de ses gestes.
Ok. Voilà. Bah, petit tour de table. Toi, qu'est-ce que tu as de ta maman, Lisa ?
Je pense le côté studieux.
Oh, ah, ouais. Puis on dit sur ce ton-là, ça fait peur. Ouais, je vois, très bien. Mélodie, qu'est-ce qu'il y a en toi de ta maman ?
Oh là là, beaucoup de choses de ma maman. Le côté effrayé, toujours. Peur de tout. Voilà. Attention, c'est
okay,
moi.
D'accord, voilà. Très bien.
Les yeux exorbités, c'est ça. D'accord.
Emma, à part la relation avec Daniel Morin,
ouais, qu'est-ce qui... Voilà. Qui est un gros lien quand même.
Qui est une grosse gêne surtout.
Ouais, je pense c'est ma très mauvaise gestion de l'argent. Voilà. Ma mère et moi, on gère très mal notre argent.
C'est vrai qu'elle est dépensière.
Voilà, heureusement que t'es là, Daniel. Maintenant t'es là, ça fait plaisir.
Leïla, qu'est-ce qu'il y a en toi de ta maman ?
Son rire. Le surgissement du rire, comme ça.
D'accord, l'éclat de rire.
Ouais,
très bien.
Ouais.
Même qu'avec de l'eau, on est d'accord.
Alors là, tu parles de ma mère, attention.
Oui, c'est ça.
Et là, et là.
Et il y a le respect aussi.
Okay, très bien. Question de ta maman, Olivier.
Peut-être la joie de manger, de la nourriture.
Mais
c'est un peu de famille. Les bons vivants, ouais. On est bons vivants, et puis voilà. Très bien.
On
aimait rire et tout ça.
Daniel ?
Des stigmates.
J'ai pas dit, alors ce qu'il reste de ta maman, pas sur ton corps, mais dans ton comportement.
Non, c'est le truc qui me revient à chaque fois, quoi. C'est les corrections, les.
Mais en fait.
Je me faisais cogner. Hein.
Dis la vérité.
Baissez la lumière, je vais chialer un peu. Enfin. Non, mais beaucoup d'humour de second degré. Il fallait vraiment faire un pas de côté.
Déjà, ouais. Voilà. Il faut déjà qu'elle accepte le tien, d'humour aussi.
Elle n'a pas le choix.
Alors détache-la maintenant, écoute.
Et toi,
allez, t'as raison.
Alors, de ma maman, il y a quand même un petit côté professoral. Je ne sais pas entendre quelqu'un dire la lettre que j'ai fait, ça me rend dingue. Et je me souviens de ma maman à côté de la télé qui corrigeait les gens qui parler dans le poste.
Non, mais insupportable, alors il fallait la virer du salon.
C'est ce que j'ai fait. Et je suis rentré dans la télé pour faire des fautes. Et donc, évidemment, tu peux pas savoir. Quand j'avais encore ma douce maman, c'est-à-dire chaque fois que je faisais une émission avec une boulette, la première que j'avais faite, c'était par exemple un espèce de.
Ah bah oui.
Et là, mais j'avais des heures de correction de maman. Dit, c'est une espèce, quel que soit le genre qui arrive derrière. Justine, on parle beaucoup de votre maman, vous en parlez beaucoup dans cette drôle de peine. Peut-être pas de la même manière qu'au début, que dans vos précédents romans.
Oui, c'est vrai que j'en parle dans tous mes romans depuis le début, mais pas de la même manière. Ouais. J'avais essayé de sortir du personnage de ma mère quand j'avais écrit un roman sur Antonin Artaud qui n'a pas rencontré son public, comme on dit. Mais c'était
qui est d'ailleurs le seul livre que vous ayez fait et qui ne soit pas autour de votre famille et autour de votre vécu.
Oui. Non, oui, c'est le seul, mais enfin,
ça va, c'est oui ou c'est non, justement.
Non, c'est parce qu'il y a aussi un petit livre qui est sorti chez Flammarion que j'avais beaucoup aimé faire avec des légendes sous des photos et c'était de la pure imagination.
Alors, je parle d'un roman.
Parlons.
Sous la forme romanesque.
Voilà. Choisissons bien les mots, c'était un roman.
Vous n'allez pas vous prendre pour ma mère, non ?
C'est compliqué, cette émission.
Donc,
hein.
C'était la mère d'Antonin Artaud, donc il y avait quand même un personnage de mère, donc j'ai du mal à sortir des mères. Enfin, c'est pas comme ça qu'il faut le formuler.
Mais là, vous menez une enquête, en tout cas.
Voilà, là,
vous êtes meilleure à l'écrit, alors vous avez du mal. Hein, vous avez vraiment beaucoup de mal. Hein.
Vous menez une enquête, Justine, sous la forme d'un roman, mais jamais j'ai eu la sensation d'être aussi près de proche, en tout cas, de ce que j'imagine être votre véritable vie.
Oui, parce que pendant ça fait quand même 30 ans que j'écris et je me suis cachée, j'avais le petit bouclier de la fiction et puis là tout à coup j'en ai eu assez.
Vous dites je.
Et je m'appelle Justine dans le roman et non plus Louise comme avant. Et
on progresse.
Il y a que Pablo qui reste Pablo, qui sera bientôt un jour Chico, mais pour l'instant ça reste pas. Oh ça va, t'es obligé de faire une ref. Et on l'aime et on l'embrasse.
Oui, Justine, t'as du rouge dans les cheveux.
Et notre invité jusqu'à midi et demi, voici votre plus grand fan, c'est Hold the Line. Oui.
De Justine Lévy, éditrice le jour, écrivaine la nuit, toutes les vies qu'on vit, Justine Lévy aussi à cœur, c'est vraiment une autrice à la hauteur. Et vous êtes là pour le livre, une drôle de peine, ça forme un oxymore de lit et drôle et peine, alors qu'Oxy est mort dans le même mot, c'est un pléonasme. Voilà. Et un truc qui pléonasme, c'est souvent mes chansons.
Oh oui, d'accord.
Et là, Jean-Baptiste Bussière, le rédac en chef, va me dire que je pars trop loin dans les jeux de mots.
C'est vrai.
Je crois surtout que c'est un réac chef, si vous voyez ce que je veux dire. Il va me dire surtout de parler de vous, Justine, et de votre super livre. Il a peut-être raison au fond. Justine mise au point sur les plus belles images de Lévy. Elle nous offre encore un hit de librairie. Répond à des questions longues de Nagui qui durent toute la nuit. Justine mise au point, heureusement pour vous, y'a Boudadi. C'est celle que nous on appelle la Cadour. On va creuser ensemble pendant une heure et demie pour parler du deuil. Une mise au point.
Ça passe.
Non. Pas du tout.
Ouais, je suis fan de Justine Lévy, c'est clair. Ça me remue les entrailles, les histoires que les vies servent. Vous êtes notre invité, on vous fera pas de mal. Bienvenue à vous avec
la bande originale.
Yes.
Oh, ça passe pas du tout.
Non,
ça passe pas du tout. Tu vas voir où je vais les mettre les questions, tu vas voir ça.
Il est sur scène.
J'espère qu'il est pas sur scène.
Alors, le 7 novembre, il sera à Strasbourg pour la nuit de l'humour, ce sera sûrement le moment pause. Et le 1er avril à Paris, aux Folies Bergères.
Ah, super.
Ah bah, il faut bien que ce soit un 1er avril.
Ouais, ouais.
Justine Lévy, une drôle de peine. Déjà, j'aimerais qu'on s'arrête sur ce titre.
J'aimerais qu'on s'arrête tout court.
Parce qu'il y a tellement de sens que l'on peut donner à tous ces mots.
Oui, c'est vrai. Une drôle de peine.
D'abord, est-ce que vous l'avez trouvé tout de suite, ce titre ?
Non, on ne l'a pas trouvé tout de suite. On a hésité avec Isabelle, qui est le prénom de ma mère. On a hésité avec des choses qui n'avaient rien à voir. Et puis, on s'est dit, je me suis dit, je ne sais pas pourquoi je m'appelle Onc, une drôle de peine, ça, c'était plutôt. Ça fait un peu référence à la prison aussi, parce qu'elle a fait de la prison et que je parle de ça dans le livre. Et puis, une drôle de peine, parce que. C'est quand même un livre dans lequel je m'amuse aussi. Je sais pas. Ouais.
Il y a beaucoup d'humour.
Il y a beaucoup d'humour, ouais. Voilà.
C'est vrai.
Voilà,
c'est
oui, ça. Mais il y a aussi le sens bizarre quand on dit une drôle de peine, c'est-à-dire qu'on est comme si vous étiez gêné.
Par oui, parce
peine.
Que la peine normalement ça va, ça vient, et c'est et là c'est une peine depuis 20 ans, depuis qu'elle est morte, qui ne me quitte pas une seconde, qui est tout le temps sur mon épaule, qui c'est le bruit de fond de ma vie. Et c'est assez bizarre comme peine. Voilà, c'est pour ça que c'est une drôle de peine.
Alors le travail sur le deuil est toujours très, très long. On ne sait même pas d'ailleurs s'il y a une fin à ce travail-là. Chacun le gère à sa manière, avec son histoire, avec le poids justement que l'on traîne. On peut en faire aussi une force. Est-ce que de
cette... Non, moi je crois que c'est une arnaque cette histoire de deuil, que ça n'existe pas. On fait pas son deuil. Ça, on fait croire. Je pense que la société nous fait croire que. Il y a un moment pour le deuil, que s'il y a, voilà, et puis pour qu'on revienne tous à la vie, qu'on revienne parmi les vivants et que les gens se soient pas affalés dans leur canapé. Mais en réalité, je pense que c'est pour nous faire culpabiliser et qu'on ne fait pas son deuil, on vit avec, mais on ne le fait pas, ça n'existe pas. Mmh.
Voilà. Mais comment on fait quand on se prépare à d'autres deuils, puisque c'est quand même l'histoire de la vie?
Ça, je veux pas savoir.
Ouais, voilà. Ouais.
Non. Non, mais Leïla, pour mettre l'ambiance, il y a un petit secret, il y a un petit savoir-faire.
Moi, j'entends ce que vous dites dans la volonté de ne pas vouloir faire un deuil. J'entends complètement.
Non, je voulais...
En tout cas, de se dire que c'est une arnaque ou que c'est une sorte de façon de concevoir que la peine peut disparaître. Or, c'est
non,
faux.
L'arnaque, c'est de dire que ça peut s'arrêter. C'est de dire qu'on a fait le deuil et donc passe,
et voilà. Et nous faire culpabiliser, vous n'avez pas fait votre deuil, vous devriez prendre des médicaments.
Non, mais en revanche, la question que je pose après, c'est justement comment on se prépare à affronter les autres deuils qui sont inéluctables, puisque la mort l'est par définition et qu'il y a des figures très importantes dans nos vies à tous qui font qu'on va être confronté à un mur à un moment.
Peut-être qu'on se prépare pas.
Ouais, peut-être qu'on se prépare pas.
Il y aura plus de choses à... Non, mais c'est vrai, quand on lit votre livre et quand on voit l'importance de cette enquête, pour reprendre l'expression et la réalité dite par Leïla, c'est une véritable enquête qui va jusqu'à vous pousser à partir en Inde alors que votre compagnon préférait le Japon.
Oh, la lune de miel en plus.
La lune de miel, ouais, le pauvre, je sais pas comment il a fait pour rester après ce... Parce que
Vu la gastro, il ne pouvait plus bouger, surtout. Il était obligé de rester.
Ouais, bravo. C'est vraiment lui.
Il faut expliquer que la lune de miel en Inde, un peu forcée, cette lune de miel sur cette destination, c'était pour retrouver l'endroit où vos parents
s'étaient rencontrés
et avaient vécu, en tout cas.
Oui, parce que c'est vrai qu'au début, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose de curatif dans l'écriture, en tout cas. Je me suis dit peut-être que ça va marcher et peut-être que je vais aller essayer de comprendre pourquoi j'ai cette pelle en permanence sur les épaules et au milieu du salon de ma tête. C'est vrai que je suis meilleure à l'écrit quand même. Mais c'est...
Vous allez jusqu'à... Et tant mieux pour une autrice. Vous allez jusqu'à vous poser la question...
C'est drôle de dire vraiment...
Vous vous posez même la question de savoir si j'ai presque envie de dire qui est votre mère, qui est votre père. C'est-à-dire vous vous posez des questions sur mais vous voyez ce que
non,
je veux dire.
Non, mais oui, je vois trop bien. C'est vrai que j'ai voulu savoir comment ils s'étaient rencontrés, pourquoi ils s'étaient rencontrés en Inde, les jeunes gens qu'ils étaient.
Parce qu'avec une vie avec beaucoup de rencontres, avec beaucoup d'amants et l'icône qui était votre maman, vous vous posiez des questions de savoir mais à quel moment exactement, au milieu de tous ces voyages de mon père, de ces voyages et de ces rencontres de ma mère, de ces moments où elle était sans lui et moi qui arrive, bref.
Oui, parce qu'ils étaient, ils étaient donc très jeunes en Inde à l'époque où on partait un peu pour, enfin lui partait pour travailler. Il était déjà très 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 impliqué dans les combats du monde et ma mère partait plutôt pour fumer de l'opium, je pense. Et puis ils n'arrêtaient pas de se séparer. Et puis à un moment donné, je sais même pas non plus comment on peut dire ça. Ils ont. Et puis j'ai voulu savoir pourquoi. J'ai voulu savoir pourquoi ils avaient décidé de...
De faire oui, voilà. Mais
c'est-à-dire que ce que peuvent se poser tous les enfants du monde, c'est est-ce que je suis le fruit de l'amour, le fruit du hasard, le fruit d'une rencontre, le fruit d'une longue histoire ou d'une petite histoire. On peut se poser cette question, chacun.
C'est un tabou. En général, assez majeur.
Mais parce qu'on n'imagine pas ses parents faire l'amour, donc on se pose pas la question. Voilà.
En même temps, on est ingrat.
Non. Toi, t'as des vidéos, c'est pas pareil. Non, c'est que l'imaginaire.
Ni sa mort, ni sa naissance. C'est quand même un petit peu tabou. Et j'ai voulu aller voir.
Ni l'amour. Alors, ni sa naissance, ni. Fait quand même beaucoup de choses qu'il faut
Mais je suis allée voir. Je suis allée voir, du coup. Et c'est vrai que ça m'a pas aidé tellement à aller mieux en réalité. C'était pas tellement curatif. En fait, peut-être que ça fera du bien aux gens qui vont lire le livre, j'espère, parce que en général, quand on lit, c'est pour ça qu'on lit des livres, c'est pour
apprendre ça que vous le
et pour comprendre. Au début, c'est pour ça que je l'ai fait, et puis finalement, ça m'a servi à rien. Mais c'est voilà.
Donc vous arrêtez les phrases au milieu, on est d'accord. Je suis prêt.
Non mais pourquoi pas, c'est une proposition.
Je suis prêt.
Je sens plus mal quand on voit la fin de ça.
Non, c'était un point retour à la ligne. C'était un nouveau paragraphe.
Voilà, c'est ça. Au moment du point final du livre, vous n'avez pas quand même été soulagé?
J'étais soulagée d'avoir terminé parce que c'est long, parce qu'on est tout seul quand on écrit, parce que je m'étais éloignée de mes enfants, etc. Donc j'étais bien contente de
et de vos
chats. Termine. Et de oui, et de mes chats aussi. Ouais. Et puis oui, voilà.
Donc soulagé. Okay.
On en parle jusqu'à midi et demi, ou peut-être un peu avant, on va s'arrêter.
Pour soulager Justine et Vie. On va rester dans le thème.
Oui.
De toute façon...
Voici Lisa Del Moitié. Parce que vous, Lisa, vous n'auriez pas écrit un livre comme ça sur votre mère.
Non, moi j'ai un deal avec ma mère, on s'est mis d'accord, elle n'a pas le droit de mourir. Elle peut faire tout ce qu'elle veut, elle peut voyager, elle peut voter à droite, parce que je ne suis pas ouverte d'esprit. Elle peut même commenter mes posts Instagram pro, comme le font tous les darons. C'est-à-dire de façon gênante et trop intime. Super Lily, bis de moi et papa qui est ballonné. Tu m'as commu le C. Une personne, hein, c'est pas non plus. Mais elle se démerde, elle meurt pas, voilà. Les mamans, voilà, c'est comme ça. On peut pas tout avoir dans la vie. Il faut choisir. Soit tu veux un enfant, soit tu veux la mort. Soit tu veux une frange, soit tu veux pas d'acné. Soit tu veux de la raclette, soit tu veux une vie intime. Voilà. Je suis hyper premier degré, en fait. J'ai même pas envie de faire des blagues. Tellement votre récit me touche, Justine, votre relation avec votre mère avant, votre vie avec sa mort maintenant. Moi, je suis tellement une fille à sa maman que j'ai dû aller habiter dans un autre pays. Sinon, je serais jamais devenue moi. Et là, vous vous dites, UCT, si grave. Non, mais moi, être la fille de ma maman m'aurait suffi amplement dans la vie. C'est le seul rôle qui m'apaise. Mais bon, t'es censé t'épanouir. Oh là là. Que de pression, l'âge adulte. Déjà qu'il faut voter, recycler, retirer la croûte avant de manger le fromage. J'ai compris ça il y a 6 mois. 33 ans de tranches de fromage au petit déjeuner. Je suis 50% humain, 50% plastique. Je suis la version Gouda des Kardashians. Je sais pas où il est le plastique, il est pas au bon endroit. Je sais pas trop quoi dire. Votre mère, Justine, c'est si intime, si ce n'est que la mienne est très différente. Votre maman prenait des drogues, ma mère prend des graines de lin. Moulues, bien sûr, moulues, oui, entières, oui. Ça ne sert à rien, non, ton corps clair. N'absorbe rien. Et elles ressortent indemnes. Tu ne sais pas si tu as déféqué ou accouché d'une boule de gras pour oiseau. Je vais la prendre dans le jardin, c'est bientôt l'hiver. On va se régaler. Ma mère est très saine, elle fait du sport et de la purée dans laquelle elle remplace le beurre par du fromage blanc. Voilà. Autant dire qu'il n'y a pas de drogue dans sa vie. Elle a une expérience de crack qu'elle raconte non-stop, mais c'était chez l'ostéo. Donc,
Le crack.
Mais oui. Mais peu importe. Mais peu importe que maman soit différente, ce qui est touchant dans votre livre, c'est votre douleur, c'est aussi l'amour quand même que vous lui portez toujours. Il faut dire à sa maman qu'on l'aime, sauf si on l'aime pas. Non mais il faut aussi normaliser ça, il y a des mamans qui sont nulles et c'est ok de le dire quoi. Faut pas, voilà. C'est pas toutes des saintes, mais il y a des mamans qui font souffrir leurs enfants. Et ma maman aussi m'a fait souffrir, vous savez, je dis pas qu'elle était violente quand j'étais petite, mais enfin je rappelle qu'elle me faisait bouffer de la purée au fromage blanc. Mais elle est où la joie maman? Il est où le gras en fait? Ah bah oui, dans les toilettes. Répète le message principal de la chronique. Bon, ce livre il parle de la maman mais il parle de la fille aussi, hein. Il parle de vous Justine, vous ne vous ratez pas. Si je peux me permettre de résumer, corrigez-moi si je me trompe. Quelques névroses, peut-être. Et en même temps, non. En même temps, tu te dis avec une mère pareille, si fantasque et foutraque et destroy, d'office que la fille est peut-être pas la plus stable, alors que moi qui ai une mère pilier. Une mère fondation, une mère. Ah, porteur, ça.
Ouais.
Mais avec une mère pareille, je devrais être stable. Et pourtant, vous voyez la tour de Pise? Elle m'a tout piqué. Voilà. Donc bon, vive les filles intenses, Justine, et puis surtout, mais vraiment, vive les mamans.
Merci.
Bravo, c'est ça.
Lisa Del Moitié et Bise, maman, évidemment.
Bien sûr.
Papa. Il va l'honner, mais bon, on peut faire bise.
Courage, mais il doit prendre des graines de lin.
Alors justement, pour en revenir au... et le papa aussi, il est présent aussi. C'est aussi un livre sur le père, on parle beaucoup de la mère depuis le début de l'émission, mais il est quand même présent.
Il est présent dans ma vie, parce qu'ils sont rares les gens à qui on doit tout, et moi je lui dois tout, donc il est présent, mais de manière assez, quand même, un peu feutrée, parce que comme il est un personnage public, je tenais pas, ou peut-être que je me suis dit qu'il ne tenait pas à être trop présent dans un roman très impudique comme ça. Mais bien sûr.
Mais c'est parce qu'il est un personnage public qu'il est protégé aussi dans le livre
roman,
et qu'il n'y a que des bonnes choses.
Ah non, ça c'est pas du tout ça. Je pense que je
tu le regardes d'une fille sur son père.
Ouais,
complètement amoureuse de son père.
Oui, j'aurais pas pu écrire des choses. C'est pas amoureux le mot quand même. Vous exagérez, mais j'en trouve pas d'autres. Mais je vois pas pourquoi j'aurais écrit des choses mauvaises. J'en aurais pas trouvé, je crois. Mais il est là et il est présent puisqu'il m'aide dans mon enquête à progresser dans cette enquête pour savoir qui était ce personnage incroyable de ma mère, et il m'oriente, il me conseille d'aller voir Enfin, il me conseille d'aller voir son...
L'ami, par exemple, c'est lui qui vous dit qu'il faut aller voir cet ami
Ah non, certainement pas, parce que c'est l'ami, la maîtresse de, ouais, de ma mère. Ouais. Non, il me conseille...
Enfin, le frère.
Et le frère, oui, ça, le frère, il me conseille. Mm. Oui, c'est vrai.
D'aller mener cette enquête-là, d'aller voir le frère de votre mère qui est dans une sorte d'asile ou d'hôpital psychiatrique pour essayer d'avoir des informations, là encore.
Que je trouve pas tellement, non. Là.
Non, je repensais à la maîtresse de votre mère, parce qu'elle elle a une phrase extrêmement violente qui est un ressort également dans votre enquête. C'est qu'elle vous dit que votre maman était sous opium au moment où elle était enceinte.
Alors j'ai décidé de pas la croire, parce que j'ai cette femme que je rebaptise Violaine, j'ai pas voulu, par peur des procès, elle s'appelle Brigitte. Et c'est vraiment la figure du diable pour moi. Si je croyais au diable, ce serait cette personne-là. Mais je me suis dit qu'elle allait m'aider dans cette enquête, et j'ai réussi à la retrouver au bout du monde sur Facebook, comme on retrouve tout le monde, finalement. Et puis on a commencé à discuter un peu pendant quelques mois, et puis au dernier moment, j'ai eu peur et je ne suis pas allée la voir là-bas au bout du monde, mais elle a quand même eu le temps de m'envoyer quelques phrases assassines, dont celle-là. Ta mère m'a pas attendue pour se droguer, elle était complètement camée quand elle était enceinte de toi, et j'ai décidé de pas la croire. Voilà, après cette enquête,
elle s'excuse, enfin, en tout cas dans le roman.
Oui, elle me traite de salope après, quand même, mais vous avez loupé ce passage-là.
Non, mais je savais plus si les excuses étaient avant ou après.
Elles étaient avant, bizarrement. Elle a dû regretter les excuses.
D'accord.
Et voilà, donc ça m'a fait progresser, parce que j'ai compris qu'elle me disait en fait n'importe quoi et que c'était... Voilà.
Non, moi j'avais le sentiment que la personne en question, n'ayant aucune réponse, finissait par délirer aussi et à dire tout et son contraire en quelques messages. Un message chaleureux, un message froid, un message gentil, un message méchant. C'est-à-dire qu'on se dit, ok, donc il y a un vrai problème. Là aussi, sûrement d'équilibre.
Mais quelle place, quelle place il reste, Justine, en fait, de vous dans votre vie ? Quand on porte si lourd ce deuil, quand on porte si lourd cette envie aussi de savoir, qu'est-ce qui reste de...
Il reste l'amour. Je suis extrêmement bien entourée. J'ai la chance d'être mariée depuis 2 ans, mais en couple depuis 23 ans avec quelqu'un d'extraordinaire qui me remet le monde en ordre, et puis 2 enfants merveilleux. Donc, voilà.
Et qui vous suit dans vos interrogations, qui partage...
Ah non, ça ne me suit pas du tout, ça ne l'intéresse absolument pas. Mais c'est peut-être pour ça que ça tient. Parce qu'il n'est pas du tout dans la psychologie, etc. Et puis moi non plus, finalement, je le suis dans mes livres, mais dans la vie, on s'interroge assez peu sur tout ça.
Vous avez fait lire votre roman à votre père avant de le publier ?
Oui, toujours. Et à mon entourage, et à part à mes enfants qui ne veulent pas, parce que ça ne les intéresse pas, mais sinon à mon mari, à mon père et aux quelques personnes qui sont citées.
Alors, je parlais de votre père parce qu'il est directement, impliqué. Est-ce qu'il a reconnu l'Isabelle dont vous parlez ?
Il ne m'a pas dit. Il m'a fait des remarques d'ordre grammatical. Voilà.
Un père reste un père, quoi.
Ah ouais. C'est surprenant, vous me l'accordez.
Non, c'est de la pudeur, je crois. Mais enfin, en tout cas, il ne m'a pas...
Enfin, s'il y avait une énorme erreur...
Oui,
ou
ça, je pense qu'en effet, oui, pense qu'il aurait fini par me le dire, oui.
Ouais. Est-ce que vous avez enlevé des passages ? Parce qu'on se corrige toujours, il y a différentes versions dans un roman.
Oui, oui. J'ai enlevé des passages qui étaient peut-être un peu plus venimeux, et je me suis dit que j'en avais assez des règlements de compte, et puis je suis beaucoup moins en colère qu'avant, qu'il y a 20 ans, je suis beaucoup plus apaisée, donc... J'ai décidé de jeter les passages où je me lâchais un petit peu.
Voilà. Ouais, enfin, si on prend tous les romans que vous avez écrits, où il y a des règlements de compte sur votre maman, des règlements de compte sur votre ancien amant, je sais pas si
compagnon,
compagnon, je sais pas comment il faut l'employer. Vous remettez une couche de temps en temps, il y a une petite ligne comme ça qui vient, une petite
quand ça concerne ma mère, oui, quand ça concerne la vie de ma mère, quand ça fait partie des choses qui l'ont occupée, qui l'ont voilà, ça oui, parce que
c'est pas gratuit. Si vous le dites, c'est parce que vous pensez que dans le récit, en tout cas,
non, c'est pas gratuit, c'est jamais gratuit. Non, tout est quand même, c'est vrai que j'arrive pas à terminer mes phrases.
Ouais, on va faire un petit effort quand même.
Ou alors, venez, ou alors vous venez travailler à N'oubliez pas les paroles, et puis comme ça, moi je les arrête aussi en plein milieu de mon moment. Est-ce que dans la manière d'écrire, dans l'outil, est-ce que vous êtes assis à un bureau, est-ce que vous êtes sur un ordinateur, est-ce que vous êtes papier-crayon, est-ce que ce rapport à l'objet pour le travail est important?
Je me demande si ça intéresse vraiment
et
quelqu'un ce genre de choses-là. Je me suis toujours posé la question.
Est-ce que ça change l'écriture déjà?
En fait, je suis partie avec une amie qui m'a dit il faut que tu écrives. Elle écrivait sur son papa, elle, et elle m'a dit viens, on va partir ensemble dans un hôtel à Nice. Je sais pas pourquoi je ris. Et on est parties toutes les deux. Et voilà, j'ai écrit sur mon ordinateur tout le temps, sans sortir, en faisant livrer des choses dans la chambre. Et puis ça a marché comme ça.
Vous avez bien fait d'aller à Nice pour ça. Hein.
Il fallait que je sois loin des chats, des voilà.
Non, mais c'est une question de profane de se demander si la manière dont on travaille a une influence sur le travail.
Probablement, parce que c'est pas haché par le quotidien.
Voilà,
les machines à laver, tendre le linge, j'en sais rien. Je sais pas quel est votre quotidien de l'amour à vous, mais moi c'est ça. Et au moins j'avais plus ça à faire, et du coup l'écriture n'était pas interrompue constamment par la vie.
Oui, parce que vous dites que l'écriture ne sert à rien, vous dites même...
Je ne le savais pas quand j'ai commencé à écrire. Et puis l'écriture sert sûrement à beaucoup de choses pour les autres, moi.
Pour les lecteurs plus que pour les auteurs, vous pensez?
Je pense, oui.
Vous pourriez vous passer d'écrire?
Ah, très bien. Moi, je vis beaucoup mieux quand j'écris pas, mais je pense que je me passerais très bien d'écrire si j'allais bien aussi. Voilà.
Et pourquoi vous écrivez alors?
Parce qu'elle va pas bien.
Non, c'est pas ça. Parce que je vois pas ce que je pourrais faire d'autre.
Ah oui.
Mais...
Si, éditrice.
Oui.
Vous êtes déjà lectrice.
Je suis déjà lectrice, oui, c'est vrai.
Enfin, on n'est pas là pour vous décourager.
Non, non, non.
Continue.
En tout cas, vous avez bien fait de venir, vous donne des pistes.
Consultation d'orientation.
Voilà.
Je propose de faire un QCM à chaque question, comme ça.
Tu vois, service public.
Moi, je fais votre thème astral et puis je vais vous dire.
Voici Mélodie Fontaine.
Allez, la pêche, là.
Elle fait peur.
Je sais pas si ce sont les vacances qui passent vite ou si c'est le reste de l'année qui s'écoule lentement. Tout ça, si on en croit mon plombier qui fait aussi gynéco les jours pairs, c'est une histoire de dilatation.
Oh non.
À ce propos, je discutais avec une amie de ma fille, Chloé. Elle a 6 ans et elle me disait... Quoi, je peux pas discuter seule avec une enfant de 6 ans? Je viens du Nord, mais si. Ça va, je suis pas un homme. J'ai la mentalité d'un gosse de 5, alors tout va bien. C'est pas moi qui discutais avec elle, c'est elle qui discutait avec moi. Bref, Chloé me disait que les vacances passent moins vite si tu les compiles dans un journal de bord. Enfin, la phrase exacte était « Ce qu'est-ce que tu fais, c'est qu'il faut que t'écris sur une feuille et mon chien préféré de Pat' Patrouille, c'est Chase. » Même s'il est évident que le meilleur de la Pat' Patrouille, c'est Rocky, je l'ai écouté. Et donc voilà, j'ai fait un cahier de mes vacances. Si vous avez 2-3 heures, je vous lis ça?
Allez.
Allez, heure 1. Alors que le train glisse sur son lit de fer, je quitte la ville. Waouh, les maisons me paraissent immenses vues d'ici. On me dit que ce ne sont pas des maisons, mais des immeubles. Les gens vivent dans ça? C'est incroyable. Heure 2. Adieu, agressivité. Descends au prochain arrêt, s'il te plaît. Tandis que la machine d'acier roule sur l'antipathie des gens de la ville, je sens que je m'apaise déjà un peu. Putain de train, 40 minutes de retard. Fumier, me dis pas que je vais sortir sur les voies, je vais te dépecer, je vais me faire de ton affreuse peau un gilet de mi-saison. Ah, j'arrive à la campagne, que les gens sont bienveillants. Heure 6, je me suis fait piquer par un cactus. Je croyais qu'il n'avait pas d'épines, mais en fait, figurez-vous que les épines étaient si petites, de si petites épines, que c'était presque plus dur à retirer. Ce cahier de vacances risque d'être long. Je vais accélérer. Jour 4, le travail ne me manque pas du tout et je me vide la tête. Si je continue à me la vider, je n'aurai bientôt plus rien. Jour 4 aussi. Oh, la jolie plante. Aïe, encore un cactus. Il se déplace ou quoi? Jour 7. Je me suis fait hypnotiser par Xavier l'hypnotiseur. Depuis 3 jours, je vois tout le monde à poil. Ce qui devait être une bonne blague se révèle un supplice. C'est répugnant. Je ne savais pas qu'on pouvait en avoir 3. Ah ça, non. Jour 8. J'ai croisé Nagui. Il m'a appelé Holdelaf. Demain, c'est décidé. Je me maquille. Jour 12. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Je me découvre une passion pour le groupe Los de Rio. Hélas, leur album est composé d'une seule chanson déclinée en Eurodance. Jour 14, je reçois un mail pour un casting. C'est une erreur, on cherchait Élodie Fontan. À trois lettres près, j'avais du travail. Jour 15, de retour en ville, je retrouve l'apprêté du béton. Sous mes pieds, la saleté, les bris de verre. J'aurais dû mettre des chaussures, ça pique, comme un cactus. Jour 19, marre du rosé, je commence par un spritz. Jour 20, je finis par un spritz. Jour 21, on me signale que j'ai un problème d'alcool. Je tente l'hypnose pour arrêter. D'une pierre deux couilles, c'est bon. J'ai arrêté la picole et je ne vois plus personne à poil. Jour 26, officiellement, je lis le roman « Mon vrai nom est Elisabeth » d'Adèle Lyon. Mais en cachette, je scrolle le figaro.fr, les pages éco-bourse. Jour 28, à force de lire le Figaro, je vire à droite. Jour 32, faudrait voir arrêter de s'acharner sur les grands patrons, ils créent de l'emploi. Jour 53, plus qu'une semaine avant la rentrée, j'ai la boule au ventre. J'espère que c'est la peur et pas un kyste. Jour 53 encore, ce n'était ni un kyste ni la peur, mais une intolérance au roquefort. Jour 55, le rédac chef m'envoie un message. Je suis reconduite à la rentrée. La rentrée est dans 5 jours et je n'ai aucune chronique. Mon journal de vacances est une cata, on dirait un livre de Yann Mox. Jour 58, août va laisser sa place à septembre. En ville, la vie revient, les klaxons klaxonnent, les commerces commercent. Je prends le chemin de la maison de la radio, c'est étrangement calme. Jour 59, bonjour Leïla, bonjour Nagui, coucou les copains. On a passé des bonnes vacances. Moi, il faut que je vous raconte, c'était fou.
Mélodie Fontaine.
À partir du 5 septembre, tous les vendredis et samedis à 20h au point virgule, et le 27 septembre, elle sera à Bordeaux, au Trianon.
Une drôle de peine. Vous avez passé de bonnes vacances à propos, Justine ?
Oh, très très bonnes.
Voilà. C'est quoi, ça ressemble à quoi des vacances de...
Avec beaucoup d'amis, beaucoup de rires, pas mal d'alcool et
avec
pas
modération.
Envie de rentrer. Mmh. Ah pardon, oui. Avec
bien sûr. Ah, pourquoi ?
Bien sûr. Ouais.
Quand vous écrivez un roman, vous l'offrez aux membres de votre famille, à des amis, ou...
Il achète, il se débrouille.
Non, ouais, je sais pas.
Non, mais c'est toujours très très gênant d'offrir son livre à quelqu'un et tu es obligé de le lire et en plus il faut faire un rapport de lecture. Et non, c'est horrible, je les laisse tranquilles.
Et personne ne vous dit, je comprends pas, t'as écrit un livre et tu me l'as pas donné.
Ils savent maintenant.
Vous les avez dressés. On va parler avec Joseph Agostini, qui est psychologue clinicien, justement, de ce rapport avec la mort, avec le deuil.
On va se marrer tout à l'heure.
On va en apprendre en tout cas. Et puis la musique dans votre vie, Justine Lévy, on va commencer en 74. I was born about 10,000 years ago. Ain't nothing in this world that I don't know. I saved King David's life and he offered me a wife. I said, now you're talking business, have a chair. Elvis, mais on est d'accord sur Elvis, incontournable, mais pourquoi ce titre en particulier ?
Parce que si je parle bien anglais, si j'ai bien compris, il dit qu'il est né vieux.
Ouais.
Et moi,
De 10 000 ans quand même, il est né très vieux.
Ouais, alors je...
On garde le début de la phrase.
Je me vanterai un peu, oui, c'est vrai, c'est le début.
Pourquoi aller jusqu'à la fin de la phrase ?
C'est vieux, hein. Il est vieux, hein.
Non, mais j'ai pas tellement été une enfant et je suis née vieille. Voilà, c'est ça mon. Donc je me sens proche de cette chanson.
Et vous êtes née surtout dans deux univers très très différents. Vous le racontez dans le livre, comment fille de Bernard-Henri Lévy, donc un milieu aisé, un cadre aussi intellectuel, puissant. Et votre mère, qui peinait à payer son loyer, à payer ses factures, qui était à la CMU, au RMI. C'est deux univers.
Qui était mannequin ?
Qui était mannequin.
Oui, c'était après.
Voilà.
La déchéance et la vie triste étaient après dans une sorte de deuxième partie de sa vie, ma mère. Et, mais oui, deux univers très différents. Mais j'ai commencé par être élevée par ma mère, un peu comme tous les enfants de couples divorcés. Et c'était les années 70, la fin des années 70. Donc c'était très étrange. Et c'était il n'y avait pas tellement d'enfants. Enfin, si l'enfance c'est l'innocence, j'ai pas été tellement
protégée.
Voilà.
Ouais.
Abandonnée à vous-même.
Pas vraiment abandonné, mais témoin de choses qu'on n'a peut-être pas envie de comprendre et de voir quand on est tout petit à 3, 4 ou 5 ans. et qui sont pas traumatisantes non plus, mais qui vous aident pas à avoir envie d'être enfant.
Genre Interville et tout à la télé.
Voilà.
Je t'en prie. À l'époque.
C'est tellement changé. Quand on est soutenu par financièrement entre guillemets par son papa, mais sans avoir sa présence, quand on voit la difficulté à s'en sortir de sa maman, quel rapport on a justement avec la société, avec l'argent, avec son budget personnel, on se dit.
C'est bizarre vos questions.
Ouais, je sais.
Ça, c'est, okay.
C'est pour ça que je suis là.
Je sais pas si c'est binaire comme ça. Ma mère a gagné beaucoup d'argent quand elle était mannequin et puis elle en a fait ce qu'elle voulait, c'est-à-dire grosso modo le dépenser et le donner à ses amis. Elle gardait pas. Et mon père, je sais pas tellement bien quel est son rapport à l'argent, franchement. Mais enfin, j'ai 50 ans et j'ai mon rapport à l'argent.
Je parle de votre rapport dans la mesure où, et si je pose cette question, c'est parce que vous l'avez évoqué en sachant que vous n'avez jamais manqué de rien, justement, oui. Grâce à la générosité de votre père.
Qui venait à la rescousse, quand même.
Quand je dis j'ai jamais manqué de rien, c'est pas, je parle pas d'argent, même si en effet, je suis pas née avec un stylo Mont Blanc dans la bouche, mais enfin, ça tout allait très bien. Et si j'ai manqué de rien, c'est notamment d'amour. J'ai jamais manqué d'amour. J'ai manqué peut-être de 2-3 choses élémentaires dans la petite enfance, mais sinon, non, l'amour était là. C'est ça dont je parle plutôt.
Oui.
Mais sinon.
Vous parlez des vols, et ça m'a aussi beaucoup fait sourire.
Ouais.
Cette façon aussi de réparer quelque chose, peut-être d'une certaine façon, de rapporter à votre mère des choses dont elle n'a pas nécessairement besoin, mais c'est une façon de lui offrir aussi quelque chose, comme si elle méritait.
Faut préciser quel genre de vol, souvent des cuillères de restaurant, ou des tasses d'hôtel, ou des petits objets, entre guillemets.
Non, parfois des gros, parce qu'une fois j'ai volé un oiseau empaillé, et c'était pour
la flamme rose.
Je ne sais pas quelle sorte d'oiseau précisément.
C'est bizarre ta question,
Daniel. Peut-être.
Ouais.
C'était au Fooding, qui est un événement assez amusant, et en fait, j'ai plus jamais été réinvitée parce que je suis partie avec sous le bras, et j'ai gardé cette habitude-là de voler des choses pour ma mère, mais c'est pas des choses utiles, non, pas des petites cuillères, des ampoules, je sais pas. Et j'ai
les cendriers.
Ouais, parfois aussi.
Le carnet d'adresses de votre papa a aidé votre maman à sortir de prison ?
Sans doute, probablement. Peut-être qu'à cette époque-là, c'était plus facile quand on avait un carnet d'adresses, comme vous dites. En même temps, elle a purgé sa peine. Ça l'a aidé à sortir de prison le week-end.
Une journée par mois, c'est ça, pour pouvoir la voir.
Je me demande si c'était pas tous les week-ends. Ça, j'ai pas de certitude là-dessus. En tout cas, elle sortait pour me voir. Ça, c'est sûr.
Mais est-ce que vous étiez choqué par voir ces deux visions, pour en revenir à ce que disait Leïla, justement, de...
Deux mondes.
De deux mondes. Mmh. Un monde un peu d'aisance, un autre de déchéance.
Ma mère aurait très bien pu décider de me garder avec elle et demander une pension alimentaire, comme plein de gens le font, et elle a choisi de laisser mon père m'élever quand je suis devenue un peu plus grande, et je trouve ça très généreux de sa part. Et elle, c'est elle qui a choisi cette vie aussi de déshérence et de c'est pas de la misère, mais de ça l'intéressait pas. Voilà, l'argent l'intéressait pas, et lui a toujours fait en sorte qu'elle ne manque de rien de vital, c'est-à-dire qu'elle avait un petit appartement, elle avait mais elle ne voulait pas davantage. C'est comme ça.
En 95, Justine Lévy, vous écoutiez. F.R. David. Don't come easy to me. How can I find a way to make you see? I love you. Words don't come easy. En tout cas, avec son plus grand succès, Words, il en a fait un autre d'ailleurs juste après.
Ah là, c'est pas vrai.
Sur l'album qui s'appelait Words.
Le pauvre.
Que se passait-il en 95? C'est le premier roman de Justine.
C'est ça.
Oui, c'est ça.
Vous sortez, c'était il y a 30 ans, et vous aviez 20 ans, ça fait beaucoup de chiffres, mais bon voilà. Vous sortiez votre premier roman, Rendez-vous. Est-ce qu'il a eu... Et il a été difficile de publier ce premier roman?
Ben non.
Pourquoi évidemment, ben non?
Non, ben parce que c'est plus facile de publier quand on est la fille de Bernard-Henri Lévy et qu'il il a beaucoup d'amis éditeurs, etc. Donc non, ça n'a pas été difficile.
On peut être aussi rapidement jugé ou préjugé.
Oui, sûrement aussi.
Ouais.
Et, non mais vous, moi je posais cette question aussi pour vous, est-ce que ça a été facile? de donner à lire ce qu'on a envie de raconter, parce que c'est pas parce qu'on a la facilité d'être publié que pour autant on a envie d'être lu.
J'avais envie d'être lue, j'avais envie d'arrêter mes études aussi. J'avais envie de... mon père m'avait quand même dit, bah, si tu arrêtes tes études, tu te débrouilles et tu gagnes ta vie, comme tout le monde. Et j'ai trouvé ce moyen-là. Et puis, il ne devait pas être si mauvais que ça, même ce livre-là, puisqu'il a, il a rencontré des lecteurs. Voilà. Mais bien sûr que ça a été plus facile que pour d'autres. Et maintenant que je travaille dans une maison d'édition, je sais bien à quel point c'est tellement difficile d'être publié. Oui, donc ça, j'ai eu... Oui, j'ai eu une chance inouïe, ça c'est.
Et pourquoi vous n'aviez pas eu envie de faire des études?
Oh bah parce que je pense que...
Elle n'est pas la seule autour de cette table.
Bon, ça, si, ouais, si, mais... vous aussi, non?
Ah oui, elle, oui, mais continue.
Normalienne, non? Oui,
je continue. Non, mais pourquoi vous n'avez pas eu envie? Parce qu'on pourrait imaginer que, justement, dans un cadre intellectuel épanoui, où on peut avoir accès à plein de choses, qu'on se destine à des études brillantes, au moins, je ne sais pas, pour faire plaisir aux parents.
Je crois que j'avais pas envie de surclasser ma mère, qui elle n'a pas fait d'études et n'a pas eu son bac. C'est comme si on avait fait un pacte tacite toutes les deux. Je serais pas plus heureuse qu'elle et j'aurais pas plus de diplôme qu'elle et voilà.
Okay. En 2004. Hein... que je traduise les titres des chansons pour comprendre pourquoi vous avez choisi.
Oui.
J'ai compris un truc, ça va.
Oui, vous avez compris un truc. Quelle catastrophe.
Don't Leave Me Now, Supertramp, en 2004.
Parce que c'était la mort de ma mère et la naissance de ma fille, dont j'ai fait un roman qui s'appelait Mauvaise Fille, qui s'appelle Mauvaise Fille toujours.
Et dans ce roman. Ouais, pardon. Ouais, ouais, non, mais parce que...
Rappelle-toi, elle finit pas ses phrases.
Ouais. Non, oui. Non, mais c'est vrai que c'est la cohabitation disparition de la mère, de votre fille qui
C'est assez fréquent, je crois. Ça arrive assez souvent.
Oui, ça arrive assez souvent. C'est pas forcément le plus simple à vivre pour être épanoui dans son rôle de mère.
Elle en repart dans une drôle de peine de ce moment précis, justement.
Et ce roman, Rien de grave aussi. C'est une année un peu particulière. Dans ce roman, vous racontez aussi comment c'est un récit très féroce. Un récit de vengeance.
Non, c'est pas un récit de vengeance, c'est un récit pour pas crever. C'était vraiment alors oui, il y avait de la vengeance, mais il y avait une envie de remettre les choses en place et le monde en ordre. Et c'était je pense vraiment que je serais morte si j'avais pas écrit ce livre là qui est un livre de où je raconte un chagrin d'amour et comment on surmonte ça et comment et est-ce qu'on peut arriver à nouveau à aimer et, quand on a été complètement cramé.
Est-ce qu'on lave comme ça quelque chose? Est-ce que c'est immédiat ou ça prend un certain temps?
Non,
c'est immédiat.
Oui, en fait. J'essaie de me souvenir parce que c'est loin maintenant, mais bah on peut dire que c'est immédiat.
Dans le drôle de peine, vous en mettez une couche.
Non, je trouve pas.
Bon, vous refaites. Il y a une phrase que vous envoyez et
pour le citer, vous décrivez en fait Raphaël Enthoven dans Rien de grave qui vous a quitté pour Carla Bruni, qui était elle-même en couple avec le père de Raphaël Enthoven. Et donc dans le livre Une drôle de peine, vous faites c'est une petite scène.
Ben oui.
On se croise au parc, mais alors c'est on a ce qu'il y a de plus condensé, je trouve, dans une façon de dire à l'autre à quel point on le méprise.
Voilà, bravo.
C'est ça.
C'est ça.
Ben oui.
Nous avons donc...
Sinon, ça va?
Oui.
C'est comme en Nice.
Magnifique, je pourrais y vivre.
Joseph Agossi nous a rejoint. Bonjour.
Sans transition, oui. Bonjour Nagui, bonjour Léa. C'est beau, hein?
Aucune.
Bonjour Justine.
Psychologue, clinicien, psychanalyste. Tout à l'heure, Justine Lévy nous disait que c'était une arnaque, l'histoire.
Elle essayait.
La phrase. La phrase. Il faut faire son deuil.
Ouais, moi, j'aime pas le mot deuil, d'ailleurs. Je préfère le mot transformation. Transformation, le mot sublimation. Je pense que le but du jeu, finalement, c'est de transformer l'insupportable en chagrin, en douleur. Les mots douleur, les mots chagrin, c'est surmontable. Il y a quelque chose qu'on peut vivre. On peut vivre avec. En revanche, il y a quelque chose d'indicible, d'innommable quand ça arrive. La mort est souvent très effractante. Elle casse tout. Elle démolit tout sur son passage. Donc, c'est un travail de transformation.
Oui, mais cette idée de dire que la société vous dit la vie continue, arrêtez de penser. La vie continue, mais avec un poids qui restera. Ouais, c'est ça. Ouais.
Mais je pense que quand même, la société est thanatophobe aujourd'hui. On cache les morts, on cache les corps. On l'a vu avec l'épidémie de Covid, à quel point c'était difficile.
Notre société occidentale. Absolument. On a un rapport à la mort.
Oui, absolument. La question du rituel, par exemple, disparaît aujourd'hui. Il y a des gens qui sont fiers. Moi, dans mon cabinet, j'entends, non, il a pas eu besoin. Il avait pas besoin. Il est parti en 2 minutes. On n'a pas fait de cérémonie. C'était son désir. Et comme si, quelque part, le fait de s'arrêter, de célébrer, devenait tabou. Mm. Or, je pense que l'humain a terriblement, cruellement besoin de célébration, de commémoration. Parce que le deuil, c'est ça. Si le deuil existe, c'est bien la possibilité de métaboliser, de symboliser, de donner un corps.
Donc vos conseils sont quoi ? sont de dire, vous avez envie de pleurer, pleurez. Vous avez envie.
C'est tous les gestes.
Est-ce qu'il faut déménager, par exemple, pour ne plus retrouver les mêmes objets, changer de quartier, ou au contraire vivre avec nos ancêtres, avec des photos, en continuant de citer leur prénom très naturellement.
Ma tante française est morte et elle a légué à ses neveux et à ses fils, à ses enfants, ses recettes de cuisine. Mm. Et je pense que ce qui est important, c'est la matérialité. C'est donner justement la possibilité aux vivants de vivre dans le quotidien, mais le plus profane. C'est-à-dire, on ne va pas intellectualiser la mort, on ne va pas forcément lui donner une dimension profonde.
Donc une transmission.
C'est une dimension. Voilà, c'est la vie quotidienne. Le mort est là tout le temps. Quand on fait une recette de cuisine, on y pense.
J'entends. Mais sauf que, est-ce que vous y pensez en pleurant, justement, parce qu'elle n'est plus là? Est-ce que, là, vous parlez d'une personne, mais proche sûrement.
Oui.
Mais prenons une maman, un papa, un enfant, une épouse, un mari, vraiment le cercle le plus proche. On peut pas banaliser en disant allez, on va refaire.
Ah, certainement pas, mais c'est pas du tout une banalisation, ce que je viens de dire.
Vous aviez un ton un peu léger.
Je crois pas.
Il y a des deuils qu'on peut pas comprendre. Daniel l'a dit, le deuil d'un enfant, on ne peut pas le comprendre.
Alors, en revanche, effectivement, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire, le deuil d'un enfant, c'est pas du tout la même chose.
Parce que c'est pas dans l'ordre.
C'est du hors-sens.
Naturel, voilà.
Absolument, voilà. On n'est pas dans la logique. Donc, c'est forcément beaucoup plus difficile de se consoler de quelque chose qui arrive quand on s'y attend absolument pas. Et effectivement, l'enfant, c'est vraiment le deuil le plus douloureux. On est désenfanté. D'ailleurs, il n'y a pas de mot. Il y a quelque chose.
La langue française a un mot pour quand on est veuf, veuve, quand on est orphelin. Mais pas. C'est Patrick Chesnais qui l'avait dit dans son livre. Il n'y a pas de mot dans la langue française pour qualifier la perte d'un parent, d'un enfant pour un parent.
J'aime le mot désenfanté, justement. Parce qu'il y a quelque chose de dépossédé, il y a quelque chose d'une vie qui n'a pas existé. Et c'est vrai que quand la vie a eu lieu, on commémore, on célèbre le disparu, mais sa vie a eu lieu. Il y a quand même quelque chose qui a existé. En revanche, chez l'enfant, il y a le regret de ce qui n'a pas été.
On perd son avenir, en fait. C'est ça qui est dramatique pour soi. C'est qu'on perd son futur, son...
Les transmissions que l'on pouvait faire.
Ce qu'on espère, et puis la vie qui continue pas, justement.
Qu'est-ce qu'on peut conseiller aux personnes qui sont dans la périphérie d'un deuil? Est-ce qu'il faut... On présente ses condoléances, évidemment, et mais après, on est un peu maladroit. On dit courage, la vie continue. Enfin, toutes ces phrases qui ne veulent rien dire.
C'est vrai.
Est-ce que de
je pense à toi.
Voilà. Est-ce que de le dire réveille une blessure est-ce qu'il faut faire comme si de rien n'était
Moi, je trouve qu'il n'y a rien de pire que la façade dans la matière. Le deuil, c'est une invitation à l'authenticité émotionnelle. Oui. Si on aime les gens. Franchement, il faut y aller, il faut aller vers eux, il faut essayer de leur parler et de communier, de décrocher des petites bribes finalement de vérité et d'authenticité à ce moment-là. Parce que c'est quand même une invitation à la sincérité. Je trouve que c'est terrible de rester à la formalisation, à la convention dans ces moments-là. Il y a quelque chose de très triste.
Ouais, il y a aussi une période qui est donnée aussi.
Oui, respecter l'autre, bien sûr. Si l'autre n'en a pas envie, parfois on a besoin de silence et on a besoin de couper.
Est-ce qu'on sait
comment tu l'anticipes?
Mais lui poser la question directement, je crois vraiment, on peut poser la question à l'autre. Dans ces moments-là, vous savez, je pense qu'il faut un mélange de tact. Vraiment, c'est vrai, il y a un tact quand même à conserver, mais aussi la possibilité de se démuseler un peu, de sortir du convenu, de sortir de quelque chose. Voilà, la vie quotidienne, la mort est quand même une invitation à l'authenticité.
Et quand on y réfléchit, quand on la raconte, justement, comme le fait Justine Evy, est-ce qu'on réveille des blessures ou est-ce qu'au contraire, on pense des cicatrices ?
Il y a quelque chose d'important, je trouve, à la fin du roman, Justine. J'ai vu que vous soulignez la multiplicité des visages de votre mère dans votre souvenir. À quel point le mort est multiple. Mmh. Et ça, je trouve ça très important, parce que dans l'écriture, on se souvient que ce sont nos projections, nos identifications. C'est jamais le mort. On n'atteint jamais l'autre, on ne sait pas du tout qui il est. C'est juste une somme de projections. Et ça, je trouve que c'est soulageant. C'est apaisant de se souvenir, finalement, que c'est juste un faisceau de projection sur l'autre. C'est ça, le souvenir.
Quel est le problème ? Tout à l'heure, on disait que notre société avait un rapport particulier avec, avec la mort. Même d'en parler, ça peut gêner certaines personnes. D'autres cultures font une fête, trouvent normal de passer à autre chose. Il y a aussi une manière de dire, est-ce qu'on garde des photos, on continue de citer les noms, les citer, est-ce qu'on leur parle, est-ce qu'on les évoque, est-ce qu'on les convoque à nouveau ? Quel est notre problème de notre société occidentale avec la mort ?
Ben, moi, je crois que on devient ce qu'on aime. Ceux qu'on aime, c'est-à-dire quand on s'identifie, quand on aime les gens, on s'identifie à eux au fond. On n'a pas, ils font partie de nous. Donc assumer cela, porter les morts, c'est aussi porter nos identifications, c'est aussi assumer notre personnalité dans ce qu'elle a de multiple. On est à la fois vivant et mort, je crois, quand on traverse cette existence. C'est-à-dire, il y a des moments aussi qui sont passés. Vous savez, même si on vit 120 ans, la vie est courte. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a quand même quelque chose, pas comparé à l'immensité de l'univers et au temps. Voilà. C'est rien du tout, une vie. Donc, il y a quelque chose là à célébrer de ce côté-là. Comment on a été vivant et comment on a été... Il y a un devoir de fraternité. Moi, je crois que ce que dit Edgar Morin, c'est pas « soyons solidaires parce que nous sommes sauvés », c'est « soyons solidaires parce que nous sommes perdus ». Il y a un évangile de la déperdition profane. Et il y a vraiment quelque chose à soutenir de ce côté-là. Et je pense que les morts nous y incitent.
Justine Lévy, vous avez quelque chose à...
Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est rien du tout, la vie. Ça, c'est magnifique. Et puis sinon, c'est tout le débat sur la psychanalyse. Est-ce que si on refoule pas les choses, c'est pas parce qu'on a raison de les refouler? Si on les met pas sous le tapis, c'est pas parce que les choses sont mieux sous le tapis? C'est un grand débat, voilà. Est-ce qu'il vaut mieux réveiller les fantômes? Est-ce que, je sais pas, j'irais bien vous consulter.
Je crois qu'il faut les réveiller quand on peut leur parler.
Ouais,
pardon pour la question indiscrète. Avez-vous consulté, justement?
Non. Non.
Et si vous le dites là maintenant, c'est sur le ton de l'humour?
Oui, c'est sur le ton de l'humour. J'ai pas envie.
À aucun moment vous
le parce que j'ai choisi d'ouvrir les tiroirs, ces D'accord. tiroirs-là, mais il y en a certains que je vais garder cadenassés parce que je sens qu'il faut pas les ouvrir. Oui.
Merci Joseph Agostini.
Merci
le manuel pour en finir avec la mort est édité chez En Volume, le nom de cet éditeur, et apparaître un tout autre sujet aux éditions Dunod, ça sera sûr.
Les premières dames sur le divan arrivent en octobre. À quel point les femmes sont importantes pour nos présidents.
Très bien. Signé Joseph Agostini. Dans cette bande originale, voici l'hommage d'Emma Beauvan.
Tout à fait, Nagui, je vais rendre comme tous les jours un hommage et aujourd'hui j'aimerais rendre hommage aux travailleurs et travailleuses du sexe et particulièrement aux personnes qui ont un OnlyFans. Figurez-vous que cette nuit j'ai rêvé que j'en avais un. C'est fou. Je faisais des lives dans lesquels je montrais mes pieds à des profs de philo qui s'habillent chez Muji et qui puent de la gueule. C'était horrible. En plus, ils me faisaient des dons, du coup je devais les remercier en live, genre merci @NietzscheAvaitRaison68 pour ton cadeau. Merci @plus je perds mes cheveux, plus je ressemble à Socrate76 pour ton cadeau. Merci @OlivierDelafosse. Ça fait chier, moi. Non, c'est dur comme métier, vraiment très dur, travailleuse du sexe. Gros respect, je sais pas comment t'arrives à faire ça en plus de la radio, Malisa. C'est vraiment très intense. Non, c'est pas simple. Et puis même, en plus, faut se prendre en photo dans des positions pas possibles. Ça excite qui de voir une meuf avec des gros seins faire son yoga sans vêtements? La question était débile, pardon. Je vous arrête tout de suite, je ne shame personne ici. Daniel, je le sais que maman, elle est tombée sur ton historique. Et je te rassure, il n'y a aucun problème avec le fait que tu sois un énorme porc. Il n'y a pas de souci. Enfin, quand même, si en rentrant du taf, elle te trouvait le caleçon aux chevilles devant la chronique RTL d'Alex Vizorek, tu ferais moins le malin, vraiment.
C'est sûr.
Heureusement qu'elle ne rentre jamais du taf, puisque son taf, c'est laver tes caleçons. #LiveGoal. Je ne shame personne. En tout cas, je ne shame surtout pas les meufs qui montrent leur corps. Au contraire, moi, je les admire. J'ai tellement de complexes, c'est trop difficile pour moi d'être à l'aise. Vraiment. Après, il y a un médecin, une fois, qui m'a prescrit un truc contre ça s'appelle le rosé. Ah, je sais pas. Et non, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Une citation de Leïla Kadou. Et surtout, s'il y a bien un truc que je ne shame pas, c'est que nous, dans ce game, on connaît que les gros noms, ceux qui gagnent beaucoup d'argent avec ça. Mais à la base, pour les filles qui commencent, c'est un petit boulot, c'est un job étudiant. Moi, mon job étudiant, c'était de babysitter une gamine insupportable et branler son daron quand il rentrait plutôt du paddle. Quoi? Quelle galère!
tous, non. Et il faut se soutenir. Enfin non, pas tous. Moi, mon ex-plan cul Clotaire, il s'était acheté une nouvelle doudoune sans manches. Une doudoune pour l'été, apparemment. Mais on galère tous, alors on va pas éternellement se shamer les uns les autres. Laissez les gens faire ce qu'ils veulent de leur Niba. Voilà. Ça devait être une chanson de Dalida, d'ailleurs. Je sais bien que tu les adores, mes Niba. Mais en fait, ce sont les miens, mes Niba. Touche même pas avec tes yeux, mes Niba. Sur ma statue, vous êtes des chiens, mes Niba. Mais elle nous a quittés, malheureusement, la veille de la session stud. D'ailleurs, dans ce même rêve que j'ai fait, j'ai reçu un mail d'un homme, justement, qui voulait que je lui parle avec la voix de Dalida. Trop bizarre. Bon, malheureusement, je peux pas parler de ce gars, je peux pas citer son nom, car il présente une émission, on ne doit surtout pas oublier les paroles. Et t'imagines, j'oublie les paroles, Nagui, salut, politique maintenant. Non mais juste, s'il vous plaît, imaginez une seconde, un monde où on laisserait les femmes faire ce qu'elles veulent de leur nibar. C'est ça le rêve que j'aurais dû faire en fait, des gens qui nous laissent faire ce qu'on veut de nos corps. À nous, heureusement, ça existe. Ah merde, en fait, c'est carrément à eux que j'aurais dû rendre hommage. Tant pis, pour la prochaine fois. Merci de m'avoir
accueilli. Merci. Sur scène, à partir du 19 septembre au Théâtre des Mathurins, ce sera tous les vendredis à 21h.
Justine Lévy, notre invitée, jusqu'à 12h30. Elle signe Une drôle de peine, son nouveau roman chez Stock. Tanguy Passureau nous a rejoint. Bonjour Tanguy, de quoi vas-tu nous parler?
Je parlais de sport, c'est la bonne résolution de la rentrée. Hein. Tous, on se dit qu'on va se dépasser. Même François Bayrou a prévu de faire une longue pause à partir du 8 pour aller à la salle.
On en parle à présent. Zad El Moitié, Mao, Audi Fontaine, Mabo Jean, Tanguy Passureau, Aldelaf, Daniel Morin.
Coucou Mélodie.
Et notre invité, Justine Lévy.
Non.
France Inter, la bande originale, Leïla Kaddour et Nagui.
Justine Lévy signe chez Stock un roman qui s'appelle Une drôle de peine, qui est une enquête, qui est une, aussi une déclaration d'amour dans ce livre. Pas qu'à une personne, j'ai envie de dire à ceux que vous aimez. Comment est venu, est-ce qu'il y a eu un déclic, est-ce qu'il y a un moment, et je crois savoir que ce moment est d'ailleurs dans le livre, qui a été le moment où vous avez dit, ok, là il faut que j'écrive et que je fasse cette enquête sur ma maman.
Justement, quand on était, on en a parlé tout à l'heure au début de l'émission, en Inde, quand on est parti en voyage de noces en Inde, parce que tout faisait signe en permanence, tout me rappelait ma mère, une petite vendeuse de bracelets, un chat dans la rue, des odeurs, la voix de quelqu'un. Et quand tout commence à vous faire signe, vous n'êtes pas loin de la maladie mentale en fait. Donc je me suis dit, bon ben là, il va falloir que je m'y mette.
Pour reprendre cette image de maladie mentale, est-ce que ça soigne d'écrire ?
Ça guérit pas, mais je pense que ça aide quand même à mettre les choses en ordre. Voilà. Après, non, ça guérit pas. Mais on n'a pas vraiment la maîtrise de sa vie, enfin pas du tout d'ailleurs la maîtrise de sa vie, mais on a la maîtrise de ce qu'on écrit du début à la fin, on choisit, etc. Et ça c'est curatif en revanche. Peut-être pas ce qu'on écrit, mais comment on l'écrit, dans quel ordre, quand on décide que c'est terminé, et voilà, mettre une forme à ce qu'on n'a pas, ça c'est important.
Est-ce qu'il y a une part de fiction aussi que vous avez rajoutée pour peut-être parce que des idées vous sont venues?
De moins en moins qu'avant. Peut-être un petit peu dans le journal de ma mère, j'ai ajouté quelques petites choses qui me semblaient justes. J'avais l'impression d'être dans sa peau, donc je me suis permis ça. Mais
est-ce que c'est de la fiction ou simplement de l'imagination?
C'est de l'imagination. Non, vous avez raison. Bravo. C'est une nuance importante. Il n'y a pas de. Ouais, c'est ça.
Ah d'accord, c'est fini. Une drôle de peine.
Dommage, ça fait qu'une heure et demie. Je pense que sur 5 heures, on aura compris les codes.
On sera au top à midi et demi. Là, ça va être dingue.
Ouais, tellement
bien. Justine Lévy est notre invité. C'est Tanguy Passureau.
Bon les amis, je suis un peu vexé parce qu'on a repris il y a 2 jours, on se croise. Moi je vous observe, hein, je vois qu'il y a un peu pris du cul cet été. Je dois dire que ça va bien, Oldelaf. Moi je suis pour qu'il arrête la guitare et qu'il twerk. Mais enfin vous connaissez son aversion pour ce qu'il appelle les cultures pas de chez nous. Moi je vous regarde, mais l'inverse, rien. Ou alors ça se voit pas, non? Je sais pas, enfin, personne n'a remarqué que j'avais repris le sport. Mais enfin, ce corps, vous pensez que c'est Dame Nature qui se lance dans des créations pareilles? Elle n'a pas le temps, Dame Nature. On est dans la 6e extinction de masse de la biodiversité. Elle est surbookée, Dame Nature. Plus qu'un dermatologue dans un désert médical, c'est-à-dire en France. Alors, dans reprendre le sport, il y a reprendre. Ce qui peut vouloir dire qu'on a un jour été classé en tennis c'est au ça. Niveau national, ou qu'on a été obligé de courir parce qu'à la fête du parti Reconquête, on est arrivé avec un t-shirt Duce. Alors que le Duce, vous lui retirez son béret, sa barbe, son cigare, c'est Zemmour. Vous lui mettez une robe et vous lui faites un petit peeling, c'est Sarah Knafo. Nous, les Blancs, on se ressemble plus ou moins tous. Hein, rien que ce matin, j'ai dit à Emma Beaujean, bah alors Daniel, t'as le teint frais pour ton âge, je connais ta routine beauté. Non, en fait, cet été, j'ai repris la course à pied, qu'on appelle désormais le running. Ah, oui. Parce que les termes anglais, ça fait plus moderne. On dit pas cette réunion n'a rien donné, parce que dans la boîte, on est tous cons comme des pelles. On dit, on a fait un brainstorming qui n'a abouti à rien. On dit pas, j'ai renoncé à toute dignité en me sapant comme un étron. On dit, j'ai acheté un jogging. On dit pas, mais en fait, ce sport est quand même un peu chiant, on dit j'ai fait une partie de curling. On dit pas c'est un acteur de gauche, on dit Charles Berling. Enfin, bref, vous avez compris. Voilà, donc je me suis remis au running, progressivement. Le premier jour j'ai fait 2 km, puis 3, 4, 5, et fin août, c'est-à-dire là, je monte à 8 km. Le souci étant que la France est un pays laid. Hein, des ronds-points partout, des buffalo grills pour une calanque un peu sympa, il y a 4 usines désaffectées en train de s'effondrer. Donc on est toujours à 8 km d'une horreur esthétique. Alors j'avais deux choix, parce que j'ai trop de temps en vacances, ce qui fait que je me pose des questions pas possible. Choix 1, courir les yeux fermés, mais enfin c'est dangereux parce qu'on a vite fait de rentrer dans un jogger plus lent et de marcher dessus, en même temps la vie est une compétition, tant pis pour les faibles. Choix 2, trouver un endroit splendide et tourner autour comme un idiot en courant sur l'équivalent de 8 km, mais à force de le regarder, on finit par y voir des défauts. Même Léonard de Vinci à un moment a dû dire à Mona Lisa, mais enfin arrête donc de sourire comme une conne. Non, mais parce qu'au départ il voulait peut-être partir sur un tableau symbolisant la dépression, mais il est tombé sur la seule dame optimiste de l'année 1504. Mona machin, son espérance de vie à l'époque était de 12 ans et demi. Partout dans les fourrés, il y avait des ennemis avec des gourdins. La terre du Milan n'existait pas, mais elle souriait. Hein, tout ça pour vous dire qu'on se lasse de tout. Mais revenons au sujet, moi. Le problème, c'est que c'est la rentrée. Voilà, et je dois faire exploser cette carrière. Je veux dire, encore plus. Alors, on va pas laisser à Oasis le monopole des shows au Stade de France. Enfin, quand même, le chanteur sur scène porte des bobs. On se croirait dans Camping 4 si la soirée mousse avait été hackée par les dieux du rock'n'roll. Donc forcément, je vais avoir moins de temps pour le running, puisque je connais le truc. Vous savez, à chaque rentrée, je me dis, ok, c'est reparti, radio, plus télé parfois, plus la scène, plus 2-3 galas pour payer les impôts. Et en plus, le running et la muscu, allez, viens Thibaut Inchep, viens. Moi, je me dis ça le 21 août, parce que je suis en forme. Mais le 26, je regrette déjà. Et tous les gens qui prennent un abonnement à Basic Fit fin août le savent, juste parce qu'ils ont fait une initiation au paddle et ils s'inscrivent, ce qui consiste à tenir en équilibre sur une planche au milieu de l'eau et à s'ennuyer. Bon, bah, mi-septembre, ils n'y vont plus à Basic Fit. Je pense qu'on ne le sait pas, mais que les salles de sport ouvrent en réalité 2 semaines par an, et le reste du temps, c'est fermé. Il y a 4 souris dans le local qui soulèvent de la fonte sur 11 mois. Tu rouvres un an plus tard, elles font 2 mètres d'envergure. Hein, il faut leur jeter des meules, des mentales entières pour les calmer. Enfin bref, j'ai peur de renoncer. Et pour pas sombrer dans l'échec, parce qu'au fond de moi se cache un winner, tout au fond, hein, au niveau de mon orteil droit, bon, on m'a conseillé Strava. Vous connaissez Strava?
Oui, bien sûr.
C'est quoi? Voilà, c'est une appli de sport. En fait, vous la déclenchez, vous courez, et l'appli, c'est très motivant, vous délivre des petites médailles. Elle vous dit, sur le segment 2,5 km à 3 km de la maison, vous avez battu votre record. Et ça fait réseau social, c'est-à-dire que vos followers voient vos séances de running, et les commentent, et mettent des j'aime, ce qui fait que vous courez encore plus, hein, pour les épater. Moi, je faisais plus que courir pendant l'été. J'ai rejoint la gare TGV d'Aix-en-Provence en courant avec 2 valises sur le dos, un lama sous stéroïde avec moins de poils. Mais le souci, c'est que je me suis abonné à des comptes proposés par Strava. C'est le but. Dont celui d'Hugo Clément, le célèbre activiste à t-shirt immaculé. Hein, et lui, il peut se battre contre des bûcherons qui pour se laver se frottent contre une marmotte depuis 16 ans. Il a jamais de tache. Je pense que même s'il prend une balle, le sang ressort par une manche du vêtement sans toucher le tissu. Et alors Hugo Clément sur Strava, c'est la personne à qui il ne faut pas se comparer, puisqu'il enquille 20 km de running le matin. Le soir, il intitule son activité « Petite brasse dans la Méditerranée ». Vous regardez les stats, il a nagé 103 km en 22 minutes. Hein, les passeurs du migrant l'appellent le petit blanc qui en fait un tontinet trop. Le lendemain, il part à vélo de Cassis, monte à Tourcoing et il se prend en photo. Il est à peine fatigué, c'est ça, un alien. Ça m'a découragé, j'ai viré ce travail, je cours à la cool, sans statistiques, sans performance, juste pour moi. J'espère, malgré cette épopée folle que constitue ma carrière, avoir le temps de continuer, donc envoyez-moi de la force, les amis, pour cette année.
Yes, Tanguy Pastureau.
Il sera sur scène avec le 6 décembre.
Avec ce corps d'athlète.
Et vous pourrez le suivre sur Strava, savoir par où il passe, le 6 décembre.
Non, je sais, on fait pas ça.
au palais des congrès.
Non, mais en fait, ce travail,
c'est pas ça. C'est pas ça.
C'est quoi?
Non, non, parce que tu peux tracer les gens. Tu sais. D'ailleurs, il y a eu un scandale il y a pas longtemps. C'était le garde du corps d'Emmanuel Macron qui courait sur Strava, donc on pouvait savoir exactement par où il passait, quel était son chemin. Bah oui, t'envoies tes coordonnées.
En fait, c'est une manière de faire du sport en public, quoi. De dire les gens nous suivent.
Tu rejoins une communauté.
Et tu peux acheter aussi des parcours Strava à quelqu'un pour
montrer. Non.
Il y avait même un dossier dans Le Point qui s'appelait La Folie du Running ou l'Express, enfin, magazine quelconque, cet été, et il décrivait l'histoire d'une femme adultère qui est vraie en fait et qui embauchait quelqu'un pour courir à sa place, et pendant ce temps-là, elle retrouvait son amant. Sauf que elle le voyait de plus en plus, ça devenait absurde, et son mari amant s'est dit, elle peut pas courir 4 fois par jour. C'est délirant, elle se fait avoir comme ça. Voilà, aujourd'hui, là.
Très drôle. Il est donc sur scène avec ce corps d'athlète.
Avec ce corps d'athlète, on pourra le découvrir, l'apprécier et l'admirer.
Oui, sera nu.
Bien sûr, le 6 décembre, j'espère qu'il y aura du chauffage quand même.
Justine Lévy, une drôle de peine.
On parlait des congrès du Touquet, pardon.
Chez Stock, jusqu'à 12h30, d'autres événements culturels.
Oui, bien sûr. On parle d'un nouveau roman qui fait son entrée dans le monde de la rentrée littéraire, au-delà d'une drôle de peine de notre invité. C'est un rendez-vous annuel avec cet auteur.
Amélie Nothomb, forcément. Non
Amélie Nothomb, absolument. Voilà. Qui publie Tant mieux. Amélie Nothomb qui, depuis 1992, il faut le savoir, sort chaque année un roman. Donc là, on est, pardon, machine. Justine.
Ah ouais. Sur du tempo.
On est sur un tempo.
Alors qu'elle avait tout écrit en 92.
Je ne veux pas vous comparer. En 20 ans, je pense que vous en avez sorti 4.
Elle écrit 3-4 romans par an et elle prend le mieux.
Et voilà. Oui. Non, mais c'est pour ça que ça peut coller un petit peu un petit sentiment de difficulté face à Amélie Nothomb. Après Premier Sang et Psychopompe, où elle s'était intéressée à son père, après la disparition de son père, cette fois-ci, elle s'intéresse dans Tant mieux à sa mère. On finit par comprendre dans le livre. Je voulais vous donner un indice, parce qu'on en a beaucoup entendu parler pendant la promotion de son livre, que sa mère tuait des chats. Donc c'était pour retrouver aussi un peu de bizarrerie, finalement, dans l'existence.
Étonnant.
Elle raconte un petit peu de façon, sous la forme d'un conte, au début en tout cas, cette femme, Adrienne, et puis on comprend progressivement qu'en fait cette femme était sa mère. Une rentrée littéraire donc, où les figures parentales sont très très présentes. Est-ce que vous pourriez, Justine, écrire sur autre chose que la famille? Autre chose que ce que vous avez vécu, vous?
J'essaie de faire une vraie phrase.
Longue, plusieurs même.
Plusieurs, d'accord. Je crois que le réel suffit.
Oui.
Souvent, le réel suffit. J'ai l'impression qu'en ce moment, en tout cas, c'est le cas. Et j'ai pas de réflexion sociologique là-dessus, mais c'est vrai qu'on écrit tous sur nos papas, nos mamans. C'est quelque chose d'assez effrayant. Mais
pourquoi effrayant?
Effrayant parce qu'on est comme tout le monde, on voudrait lire du Jules Verne, on voudrait et moi j'en lis notamment, mais je lirai avec grand plaisir le livre de la fille de la tueuse de chat. Ouais, voilà, mais le réel suffit souvent.
Mais est-ce que vous sentez
le réel n'est pas forcément le vôtre, ça pourrait être le réel, mais le réel de quelqu'un d'autre.
Ouais, c'est pour ça que c'est très intéressant, le réel. On n'a pas le même réel du tout.
Mais est-ce que la fiction pourrait être justement un terrain pour vous? Parce que là, vous signez votre livre sous la forme d'un roman, et on sait à quel point il est à dimension autobiographique, il ne l'est pas totalement, mais la fiction pure, est-ce que ça pourrait être un genre qui pourrait vous voir vous épanouir?
Je crois que j'en suis pas capable, voilà. Le jour où j'en serai capable, je le ferai.
En quoi vous n'êtes pas capable de la fiction?
L'imagination, il me manque. Je pense que je suis trop obsédée par la figure de la mère, je pense qu'elle est trop présente, je pense que j'ai pas du tout compris son mystère, et je pense que j'ai beau dire dans le livre que c'est le dernier livre de ma mère, hein, c'est de manière un peu pompeuse, je pense que j'en ai pas terminé.
Il y a un roman sur une mère imaginaire.
Je l'ai fait, c'était la maman d'Antonin Artaud, je l'ai fait. Mais comme ça n'a intéressé personne, j'étais vexée comme un pou.
Parce que c'est la difficulté quand on s'empare d'un sujet aussi personnel, si on rencontre pas un public, que ce qui est important pour soi ne l'est pas pour les autres, et c'est déceptif.
Je plaisante un peu, c'est le livre dont je suis le plus fière. C'est vrai que ça n'a vraiment intéressé personne et que voilà.
Et est-ce qu'il y a des livres en particulier qui pour vous sont des livres un peu cultes sur la figure de la mère?
Il y a un livre de Joyce Carol Oates qui s'appelle Blonde sur Marilyn Monroe, et il est beaucoup question de sa mère qui lui a beaucoup fait de mal, ce qui est pas du tout mon cas, mais c'est très intéressant, et c'est tout un monologue intérieur, et on sent que la mère est pour beaucoup dans
les traumatismes de sa fille.
Oui.
Blonde de Joyce Carol Oates.
C'est magnifique.
Autre question, on parlait de bonnes résolutions avec Tanguy qui s'est mis à courir, voilà. Et cette fois-ci, c'est une bonne résolution de rentrer à destination représentation des parents face aux enfants, aux écrans, face aux écrans qui envahissent vraiment le quotidien du foyer. D'après vous, de quoi s'agit-il cette bonne résolution ?
Couper la boxe.
Apprendre de toute urgence, c'en est une, sans doute, peut-être moins simple à faire que prévu, ça dépend de l'âge des enfants.
Le contrôle parental ?
Ça aussi, c'est une très bonne chose à faire. C'est pas celle qu'on cherche, mais en effet, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place de façon ritualisée ?
Des brouilleurs.
Poser le téléphone à l'entrée de la maison.
Ça, c'est une super idée.
Ah non, mais
à destination des enfants.
Des jeux de société en famille,
des temps de lecture.
Tous les jours, toujours quoi qu'il arrive, on fait
des temps de lecture et des temps de jeu, absolument. Et je vais me concentrer sur ce temps de lecture. Parce qu'en particulier, le temps de lecture, en particulier, plus que les jeux, influence le développement, en fait, des enfants. Et c'est en particulier la lecture à voix haute. Et c'est une pratique qui se perd. En 2012, 64% des parents faisaient cette lecture tous les soirs, cette lecture aux enfants avant de se coucher. On est tombé à 41%. Ce qui fait que ça a des conséquences sur le rapport des enfants aux livres. Parce qu'on dit toujours, mes enfants lisent pas. Mais qu'est-ce qu'on fait, nous, adultes, pour que les enfants lisent? Parce que la responsabilité, elle est peut-être un peu partagée. Moins d'un enfant sur trois lit pour le plaisir actuellement. En 2012, c'était quand même plus de la moitié. Les conseils qui sont donnés aux parents des jeunes enfants, parce que ça commence quand même assez tôt, ce rapport à la lecture, c'est de mettre en place un rituel dans un moment calme, un moment doux. Souvent, c'est avant le coucher, mais ça peut être un autre moment. Alterner les supports, ne pas lire uniquement les mêmes histoires, changer entre le conte, l'album, les histoires un petit peu plus longues, pour justement continuer à éveiller le désir.
Lire dans le désordre.
Ça, c'est Daniel, changer les pages. Voilà. Inviter l'enfant aussi à participer.
T'as fait des livres toi,
La poule trop cool. Ça, c'est des exemples de lecture, mais à varier, pas que ces formats-là.
Ah, pardon.
il faut en écrire d'autres.
Quand elle dit à varier, c'est en deux mots.
Non, mais en plus, j'ai lu l'histoire de Daniel et je l'ai éprouvée sur un enfant et ça a bien fonctionné. Inviter l'enfant aussi à participer, parce que souvent, on se retrouve face à des parents
qui payent aussi sa part du livre. Quoi.
Non, mais des parents qui peuvent le vivre aussi comme une petite corvée à la fin de leur journée, de se dire bon, faut que je fasse l'histoire. Non, c'est donner aussi la possibilité à l'enfant de s'arrêter au milieu d'une phrase, comme Justine.
et demander
à l'enfant de compléter. Qu'est-ce qui peut se passer ensuite dans l'histoire?
N'oubliez pas les paroles.
Et enfin, partager ses impressions. Je finis juste là-dessus, c'est le dernier point, c'est partager ses impressions avec l'enfant, c'est-à-dire lui dire qu'est-ce qui t'a plu, qu'est-ce qui t'a surpris et pourquoi tu penses qu'il s'est comporté comme ça. Avoir un temps d'échange qui fait qu'on n'est plus simplement sur de la lecture.
18-19.
Ça dépend de ton rapport à tes enfants, mais ça, je ne peux pas tout savoir. Et donc, c'est de continuer à considérer que le livre n'est pas simplement un objet obligatoire qu'il faut en passer par là et que c'est la lecture, mais que c'est surtout un temps d'échange avec le parent. Et donc, ça crée un lien. Et sans doute que plus tard, votre enfant continuera à entretenir ce lien avec la lecture et pensera sans cesse à vous. Ça, c'est aussi une façon de combattre l'absence, Justine Lévy. Votre rapport à la lecture, enfant, il s'est développé comment ?
En tout cas, mes enfants, je pense qu'ils ont appris à lire pour que je cesse de leur raconter des histoires.
Et tu sors de la chambre.
Ça durait trop longtemps et je bégayais. Et moi, mon rapport à la lecture, comme je suis un peu âgée maintenant, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas Instagram, etc., qui m'empêche un peu de lire maintenant. Oui. Quand j'étais petite, heureusement qu'il y avait les livres et j'ai la chance d'avoir lu ça, des Justine et les malheurs de la vertu et des choses épouvantables très jeunes qui m'ont permis de... Ah, je ne vais pas terminer ma phrase.
Non, mais c'est votre force. Mais
j'adore.
Je vais compléter.
Termine l'histoire.
C'est épouvantable.
Ils vous ont permis de vous épanouir.
Voilà,
sûrement. De vous, une lectrice, vous dites...
Moi, c'est mon métier en plus.
Oui, que lire, ça comble votre besoin d'écrire.
Ah, j'ai dit ça ?
Ouais. Okay. Est-ce que c'est juste ?
Oui, c'est juste. J'adore lire. En plus, je lis beaucoup mes contemporains, mes contemporaines, etc. Et peut-être que le moment où je commence à être jalouse, c'est le moment où je m'y remets aussi, quand je commence à être fâchée du succès de quelqu'un. Ça arrive tous les 5-6 ans.
Vous pouvez nous expliquer le principe du métier de lectrice ?
Alors, eh bien, je lis des manuscrits toute la journée, des manuscrits qui arrivent par la poste sans recommandation, sans avoir la chance, comme moi, il y a 30 ans, d'avoir un piston ou un pied dans l'édition, les gens qui ne l'ont pas, et je lis leurs manuscrits.
Et vous les jugez ?
Et je les juge.
Donc il y a une fiche qui est faite par manuscrit.
Non, je le fais oralement maintenant, et je suis pas très bon juge, mais je suis plutôt... j'aime un peu tout, finalement, moi j'aime tout. Donc, je suis pas une très bonne lectrice.
Il doit y avoir quelques manuscrits qui vous tombent des mains, non, j'imagine.
Oui, quand c'est des recettes de cuisine, etc., alors que ça marche très très bien, et après on m'engueule. Hein. Mais ça, c'est vrai que je suis pas bon juge sur les recettes de cuisine.
Et donc, vous avez la possibilité de donner la chance à quelqu'un d'être publié. Ouais.
C'est pas moi qui décide. C'est la dernière roue du carrosse.
Non, mais c'est un pouvoir de dingue.
Ouais, c'est pour ça que il y a beaucoup de choses passent entre les mailles de mon filet. Je suis encore une fois trop gentille, je pense.
Mmh. Et vous faites ça depuis combien de temps ?
30 ans.
Et parmi tous ceux que vous avez signés, quoi, non ?
J'ai très peu signé de romans. J'ai très peu aidé d'auteurs à signer des romans.
En 30 ans ?
Ouais.
Ça sort l'emploi fictif.
Non, c'est trop large, c'est trop lâche. Et puis c'est vrai que pour être publié, c'est pas mal d'envoyer une lettre directement à un éditeur. C'est plus.
C'est conseil que vous donneriez à ceux qui veulent.
Trouver sur internet.
Dans l'organigramme.
Voilà, dans l'organigramme, quelqu'un à qui l'envoyer avec une lettre un peu pensée et sans faute d'orthographe et voilà.
Et pas trop de recettes de cuisine.
Êtes-vous et ouais, pas de ChatGPT. Êtes-vous déjà sur l'écriture d'un prochain roman ?
Oh là là,
vous avez déjà une idée ?
Non, non.
Mais vous avez dit que vous n'avez pas fini avec votre mère, en tout cas.
Oui, c'est vrai, mais peut-être que ça prendra d'autres formes et peut-être que je vais trouver un autre moyen de parler d'elle, je ne sais pas, de manière différente. On va voir.
Ça pourrait devenir un film ou une...
Ah oui, ça, j'aimerais bien.
Ou une fiction, ouais.
Ça a déjà été le cas.
Ça avait déjà été le cas avec mon mari, s'il n'était pas encore mon mari, avec mon compagnon. Et c'était pas mal. Après, c'est lui qui avait les pieds sur le bureau et qui me disait « Bon chéri, note cela. » Et j'espère que maintenant, ça a changé parce qu'il est déconstruit. Mais c'était il y a longtemps. Mais j'ai bien aimé travailler avec lui quand même. Et c'était très gai. Voilà, j'aimerais bien.
Ok. Justine Evis, ça s'appelle Une drôle de peine chez Stock. Vous avez compris, si vous écrivez un roman, ne l'envoyez pas à Justine.
Moi je dis toujours oui.
Je dis oui. Mais un oui dans une vie, c'est important.
Merci Léla.
Ouais, mais ça fait un tous les 10 ans.
Daniel, tu t'en souviens quand t'as dit oui ? Bon, bah voilà.
Tellement jamais arrivé.
Des excuses.
Oui, des excuses. Désolé pour les proches de Mélodie Fontaine qui ont appris ce matin qu'à tout moment, leur femme, leur fille, leur mère pouvait physiquement se transformer et ressembler à Eldolaf. Waouh, c'est chaud. J'ai l'image d'Eldolaf avec des cheveux blonds mi-longs et un petit maillot de bain de pièces. C'est vrai que ça peut faire peur. Désolé pour la direction de France Inter qui va rapidement constater que Justine Lévy est toujours un petit peu kleptomane. Pour l'instant, je l'ai vu glisser dans son sac une chaise avec 5 roulettes sur 6, 2 casques, le piano, ainsi qu'Anaïs, la réalisatrice de l'émission. Désolé enfin pour tous nos auditeurs amateurs de phrases complètes. Oui, aujourd'hui on avait Justine Lévy et on va pas se mentir, hein, Justine, ses débuts de phrase, ça va. Et puis d'un seul coup, je sais pas pourquoi, elle se met sur mute. Terminé, rideau, plus un mot. C'est clair, c'est déstabilisant. Je pense que Nagui a déjà prévu d'inviter Justine la semaine prochaine pour avoir les phrases complètes.
Merci. On n'a pas suffisamment parlé de vos enfants, sûrement... une envie, un choix personnel, ils sont présents quand même dans évidemment dans votre vie, dans l'évocation, dans vos écrits. Vous pourriez écrire sur eux ?
Oh non, je leur ferai pas ça. Je leur ferai pas ça quand même. Non. Et puis de toute façon, ils lisent pas mes livres et donc
je leur ferai pas ça parce que c'est une agression que d'écrire.
Oui, c'est quand même fouiller, chercher quelque chose d'un peu abrupt et de saillant. J'ai envie de tout sauf ça, mes pauvres enfants. Et puis surtout, je pense que oui, voilà. Encore, oh merde.
C'est un style, hein.
Dès qu'il y a, on cite souvent cette phrase de Philippe Roth qui avait dit que dès qu'il y a un auteur dans la famille, c'est la famille qui explose et qui en prend pour son grade.
Peut-être pour ça qu'ils les lisent pas, les romans, je sais pas. Mais je crois qu'ils savent même pas vraiment que j'écris. Au fond, ils voient que je m'enferme dans mon bureau, ils voient que je fais du yoga, ils voient que parfois je m'absente, mais est-ce que ça les intéresse vraiment ? Je crois pas. Enfin, ils ont 20 ans et 16 ans, donc peut-être que depuis, ils ont fini par comprendre, mais on n'en parle pas.
Ouais. Merci d'avoir pris sur vous pour venir dans cette émission, Justine Lévy.
Merci beaucoup de m'avoir invité.
Wow, la France complète.
On y est.
Yes.
Chez Stock, ça s'appelle Une drôle de peine. Demain,
c'est qui ?
Ben voilà, Virginie Lemoine et Olivier Sitru pour une histoire vraie, celle de Sylvine Rubinstein, ouais. Qui s'est appelée Dolores et qui était une grande figure d'histoire et de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. On en parlera demain. Bonne journée sur Inter. Ciao.